Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Allô, allô tout le monde. Hey, c'est le fun. On est de retour à ce happening que j'appelle Culture Queer. Joëlle Prud'homme.
Allô!
On a notre invité du mois, Nour Simon. Allô!
Salut, salut!
Et à Québec, on a Brian Saint-Louis. Salut!
Bonjour tout le monde.
Alors, bonne et heureuse année. Puis on commence tout de suite. On plonge dans un univers qui est vraiment le fun. Artiste aux multiples talents, Nour Simon nous offre Kawal, une œuvre hybride où poèmes, lettres, partitions et recettes égyptiennes millénaires s'entrelacent pour exploiter la complexité de l'identité de l'exil et de la mémoire. Un livre que j'ai adoré, que j'ai dégusté, c'est le cas de le dire, nous.
Merci.
Alors, ça commence comme ça. Ya Kawal. Ça, c'est ta grand-mère qui dit ça. Ça veut dire quoi, ça, déjà?
Oh, c'était la question de départ du livre, parce que c'est un mot que ma grand-mère utilisait énormément à la maison pour parler à tout le monde. Puis des fois, ça avait l'air fâché, des fois, ça avait l'air content, des fois, ça avait l'air plein d'amour. Puis pendant la pandémie, j'ai essayé d'apprendre l'arabe pour la quatrième fois. Puis je me suis dit que j'allais commencer cette fois-ci par les mots que je connaissais déjà, dont le mot « khawal ».
Khawal, oui.
Puis j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça voulait dire. Puis en fait, ça veut dire « tapette ».
Ah oui!
Ah ouais! Ah. Puis là, je me suis demandé pourquoi ma grand-mère traitait tout le monde de tapette. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était un mot qui avait un peu perdu son sens quand on l'utilise pour parler aux enfants ou pour gronder des gens qui n'ont pas fait la vaisselle. Mais j'ai vu que derrière ce mot-là, il y avait une histoire fascinante, celle des hommes, entre guillemets, qui s'habillaient en femmes, entre guillemets, pour danser le baladi en Égypte au 19e siècle. Ces hommes-là, entre guillemets toujours, continuaient à s'habiller en femmes, entre guillemets, pendant la journée pour rester dans le personnage, mm-hmm. entre guillemets.
J'aime beaucoup les guillemets là-dedans.
Oui, il y a beaucoup de guillemets. C'est
ça. Ben, je vais le prononcer comme il faut. Khawal, c'est un livre-objet. Moi, j'avoue là, que maintenant, il est sur ma table à café.
Yay! Et,
oui, on appelle ça en bon franglais une œuvre de conversation.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de pages Conversation Starter.
Ouais. Ah, oui, tout à fait. Alors, pourquoi c'est essentiel de décloisonner les genres littéraires dans ce livre-là?
En fait, je l'ai pensé un peu à l'envers. Moi, j'ai toujours été une personne transdisciplinaire et fluide dans le genre et fluide dans pas mal tout. Mais en arrivant à l'école, puis surtout dans les études supérieures, on m'a dit qu'il fallait séparer les choses, qu'il y a des disciplines claires, qu'il y a des objectifs clairs, qu'il y a des apprentissages, qu'il y a une linéarité dans l'histoire surtout. Pendant mes études, j'ai appris à séparer les choses. Puis à la seconde où je suis sorti de l'université, ben, j'ai tout remélangé ensemble. Puis ça m'a pris plusieurs années à convaincre un peu mes partenaires artistiques que c'était correct.
Oui.
Puis j'ai eu la grande chance de tomber sur une éditrice fabuleuse, Charlotte Francaire, d'abord chez Omri, puis ensuite aux éditions du Norrois, qui ont accepté de me donner la carte blanche pour que je sois vraiment moi-même.
C'est un défi parce que c'est une brique, c'est un livre en couleur, c'est 500 pages, je vais quand même le dire, c'est un livre tout en couleur pour les éditeurs, c'est beaucoup.
Oui.
De frais.
C'est et une grande prise de risque, ouais.
Ouais.
Enfin, c'est fun.
Oui,
c'est
oui,
fun d'entendre ça. Hein? Je sais pas, toi qui lis beaucoup, Brian, est-ce que c'est ce genre de livre-là, moi, je trouve que ça fait du bien.
Oui, bien toujours, on aime ça. Puis,
une chance, t'as pas répondu non.
Non, j'haïs tout.
Je vais dire qu'ici, nos coups de gueule vont venir plus tard. Moi, il y a une chose qui m'a interpellée dans ce que tu écris, parce que je reconnais des choses qui font partie de mon propre parcours artistique, mm-hmm. celui de cette interrogation de la beauté, du privilège de la beauté. Mm-hmm. Pourquoi c'est important pour toi? Moi, je répondrai à ça dans mon prochain livre.
Ben, j'ai hâte de le lire. J'avais pas réalisé à quel point c'était central pour moi jusqu'à temps que j'arrive au Caire pour la première fois en 30 ans. Je me suis acheté de quoi petit déjeuner, puis je cherchais un parc pour m'asseoir, puis manger mon sandwich au foule. Puis je voyais sur la carte plein d'espaces verts. Puis je suis allé au premier, puis en fait, c'était un site de démolition. Je me suis dit, bon, OK, ils se sont trompés. Je vais au deuxième, c'est un cimetière. Mais un cimetière pas vert. Troisième, quatrième, cinquième, puis finalement, je réalise que il n'y a pas de banc, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'arbre. Puis, je me suis dit, my God, à Montréal, ça prend 3 secondes de trouver un parc pour s'asseoir, puis on le célèbre pas beaucoup. T'sais, on chiale beaucoup contre nos mairies qui ont toutes sortes de problèmes, mais ça prend 3 secondes de trouver un parc où s'asseoir à Montréal, surtout au printemps avec les fleurs et tout et tout. Puis ça fait tellement du bien, puis c'est tellement un privilège. Puis justement, au Caire, après un mois, j'ai trouvé, ah, il y a un très grand parc, en fait, au Caire. C'est le parc Al-Azhar, qui est au sommet d'une colline. Puis en fait, ce parc-là est protégé par une muraille. Il est assez dur. C'est assez dur de se rendre. Il faut y aller en Uber, en taxi. Puis il faut payer pour rentrer dans le parc. Puis une fois que tu rentres dans le parc, c'est tellement beau. C'est la végétation luxuriante qui existe en Égypte, qui peut grandir, qui peut pousser en Égypte, mais à laquelle la population n'a pas accès. Puis ça
donc
m'a...
ça, c'est le privilège de la beauté.
Oui, oui. Que j'ai tout de suite connecté avec Laval.
Ah, wow.
C'est beau, Laval.
Voilà. Ça m'a surpris.
Mais... on est écouté à Laval, faites attention.
Non, mais je le dis pas pour juste pour shamer Laval, mais mon expérience quand j'étais jeune, que je traversais le pont pour aller à Laval, c'est, tu sais, le centre-ville de Laval, c'était du béton, du béton, du béton et du béton. Puis pour trouver des beaux endroits pour faire du vélo, ben, il y a 20 ans, c'était impossible. Puis aujourd'hui encore, il y a des gens qui se battent très fort. Il y a l'organisme Canopée, par exemple, qui valorise les bois à Laval. Mais c'est une lutte de tous les instants pour conserver cette beauté-là dans nos espaces publics puis dans nos vies.
Si tu me permets, j'aimerais parler de ta double appartenance,
oui, oui.
Si je peux le dire, parce que quand on dit que tu es Québécois, tu es aussi, tu as des racines égyptiennes.
Absolument.
On a vécu, puis je pense que tu as vécu ça aussi depuis 3 ans, bientôt,
ouais.
cette horreur
ouais.
en Palestine. Et comment tu vis ça au jour le jour, et surtout parce que c'est instrumentalisé par beaucoup de personnes par rapport à nos communautés queer.
Absolument, absolument. C'est pour toutes les personnes des communautés arabes ou Swana du sud-ouest de l'Asie, du nord de l'Afrique, c'est à peu près impossible de passer 5 minutes sans penser à ça. Toutes nos pensées, nos familles, nos contacts sont affectés. Chaque jour, quand on ouvre nos réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est des cadavres, des cadavres, des cadavres et des cadavres. Puis il y a une espèce de déconnexion incroyable qui se fait quand on rentre dans les cercles qui sont pas... où on est seul, oui. Ce qui arrive quand même souvent, puis où les gens se sont levés le matin, puis quand ils ont ouvert Instagram, ils ont vu des photos de chats, tu sais. Puis nous, on a vu des photos d'enfants à la tête explosée, super graphique. Puis nous, on doit faire notre journée avec ça. Puis on doit vivre avec le fait que de le dénoncer, de dénoncer la mort des enfants, ça fait de nous soudainement des extrémistes, des radicaux, des radicales, comme si c'était... une insulte d'être radical. Moi, si on me traite de radical pour dire qu'il ne faut pas tuer d'enfants, je suis comme fair. appelle-moi radical autant que tu veux.
Ouais. Ouais.
Mais,
ou woke.
Ou tous ces vocabulaires qui sont qui détournent l'attention de l'important. Tuer des enfants, c'est mal. Tu sais, je veux dire, ça me semble une évidence, mais il y a plein de gens au Canada qui ont perdu leur emploi pour l'avoir dit. Il y a eu plein de problèmes à Fierté Montréal l'an passé.
Oui,
absolument. Puis pour les gens des communautés Swana, c'est tellement sidérant et c'est tellement difficile de faire l'exercice, en plus d'avoir à gérer toute la violence de ce qu'on voit, d'essayer de se mettre à la place des gens pour qui c'est un détail, puis pour qui c'est pas central dans leur vie, cet exercice-là de se mettre à la place de ces gens-là, c'est trop demandé. C'est vraiment trop demandé.
Reste avec nous,
oui.
Parce qu'on n'a pas fini. Je veux qu'on parle de ton autre livre, mais on va faire ça
absolument.
Un petit peu plus tard dans okay. l'émission.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Eh oui, mais là, on s'en va à Québec, où nous attend Brian Saint-Louis. Deux œuvres. Oui, t'en as des livres, toi aussi. Alors, on va parler d'un livre quand même important, là, qui fait suite à La fille d'elle-même. C'est La fille de la foudre de Gabrielle Bouliane-Tremblay.
Oui, que vous connaissez, j'espère, maintenant, Gabrielle Bouliane-Tremblay. On la voit partout, on la voit beaucoup. Et c'est une bonne chose qu'on la voit. La première chose qu'il faut dire pour ce livre-là et pour Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est une voix essentielle, c'est une voix qui porte des réalités dont on entend peu parler, qui met ça dans l'univers populaire, qui met ça dans la littérature. C'est des choses qu'on comprend souvent pas toujours bien. C'est une très bonne chose qu'elle écrive, qu'on puisse lire ses livres et qu'elle ait le succès qu'elle a. C'est très bien. Elle a une belle plume aussi. C'est pas juste un livre qui existe pour le propos, c'est pas juste un livre qui existe parce qu'elle aborde ces questions-là. C'est une écrivaine, elle écrit très bien, c'est bien construit. Mais pour ce livre-là, je dirais, heureusement qu'elle a une belle plume, Gabrielle Bouliane-Tremblay, parce qu'elle aborde aussi des sujets quand même assez lourds.
Ah oui, le trouble de personnalité limite, hein?
Ah oui, ben, y a à peu près de tout là-dedans. On est dans une autofiction en plus. On est toujours dans l'alter ego littéraire de Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est un personnage trans qui est aussi comédienne, qui est tentée par les mots. Quand on consulte sa biographie, il y a des reflets avec sa vraie vie qu'on
Tout à
retrouve dans
fait.
ce livre-là. Premier avertissement, ça s'ouvre sur une psychose. Donc, on sent tout de suite que ce ne sera pas léger. Le personnage principal, elle a trop bu, elle est coincée avec une mauvaise date. On ne sait pas si le gars l'a drogué, il essaye de l'agresser, elle réussit à fuir, va finir à l'hôpital. Et là, ben, tout au long du livre, ça ira pas en s'améliorant. On va être dans des problèmes d'attachement, des problèmes dans ses relations, des problèmes d'alcool, des problèmes d'estime de soi, un sentiment d'imposteur, la transidentité aussi qui va prendre beaucoup de place, le passé avec sa famille, des violences sexuelles. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est lourd comme parcours, on va le dire, mais donc ça donne un roman qui est assez dense. Heureusement, il va y avoir des moments de lumière, des moments de solidarité dans sa communauté, dans ses amitiés. Il y a un homme qui va finalement apparaître pour elle et peut-être promettre du mieux. Ces pages-là, elles font du bien. Donc vraiment, les livres de Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est des moments d'éducation
Oui.
populaire, un moment de compréhension, d'empathie. On apprend beaucoup. C'est sûr que là, chaque vie trans est unique, mais il y a des lieux communs quand même dans toute cette histoire-là. Puis elle les écrit bien. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ces communautés-là et de faire un peu plus preuve d'empathie par rapport à eux. Ça manque souvent. Ça reste une œuvre littéraire, mais il y a des passages, là, par contre, je vais dire, qui sont un petit peu plus proches du militantisme. On est dans l'éducation vraiment très, très intense. Là, le jupon dépasse un peu pour le côté militant, mais c'est quand même important qu'on retrouve ces passages-là dans le livre parce que ça prend des gens qui écrivent ça, qui nous parlent de ça et qui mettent ça dans les mains de tout le monde. Donc, un livre fort intéressant, pertinent et utile, La fille de la foudre, Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est chez Marchand de
Marchand de
feuilles.
feuilles.
Habituel, où elle avait publié son roman précédent qui avait remporté le prix des libraires, faut le rappeler.
Oui, tout à fait. On change d'univers. Philippe Aubert-Côté, qui est un collaborateur à notre émission, lui nous amène dans l'univers du Poppy Play et c'est le titre de son livre.
Oui, hey, si vous vouliez une chronique où mes deux livres ne fitent pas du tout ensemble, des univers complètement différents. On était dans le très dense, le très littéraire avec Gabrielle Bouliane-Tremblay. Poppy Play, oui, c'est comme tu viens de le mentionner, un collaborateur à l'émission. Donc, c'est ça, vous connaissez ce nom-là. Allez découvrir ce livre-là, soyez curieux. Ben, premièrement, il y a tellement de choses là-dedans, j'espère que je vais bien le résumer. Premièrement, on plonge dans l'univers des poppies, comme le titre l'indique, donc les poppy plays, ceux qui portent des masques de chien. Moi, c'est un univers que je connais pas vraiment très bien. Je ne sais pas pour vous. Moi, par contre, j'ai trouvé, même si je connaissais assez peu ça, c'est bien rendu. On comprend. On va suivre le personnage de Cookie Pop, Montréal, qui est très impliqué dans le monde du poppy play. Il travaille dans une boutique d'accessoires qui s'appelle Maître Grizzly, qui a pignon sur rue sur la rue
J'adore.
Sainte-Catherine. Je suis sûr que les lecteurs de Montréal vont avoir beaucoup de plaisir à lire ce livre-là parce qu'il y a plein de références. On est au cœur du quartier gay. C'est des lieux qui existent vraiment, mais avec des noms différents. Vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir. Et là, Cookie Pop, il vit avec sa meute, il s'amuse avec ses amis, il travaille. Mais là, il est aussi poursuivi par un ex pas fin qui n'a pas été toujours gentil avec lui, qu'il tente d'éviter. Est-ce que c'est son plus grand problème? Non, parce que Cookie Pop va commencer à observer d'étranges phénomènes autour de lui. Il y a des bruits au travail, il y a des apparitions de personnages, d'entités, des passages secrets qui surgissent au travail ailleurs. Là, on va être entraîné dans une cavale complètement folle, fantastique. Il y a de l'horreur, il y a du gore. Ceux qui aiment ce style-là, vous allez être très servi. Et là, la réussite de ce livre-là, quand même, c'est d'arriver à mélanger ces univers-là au complet. Le poppy play, c'est pas là pour être là, pour être cute. Ça a vraiment une signification. Ça s'imbrique très bien dans l'histoire. Donc, on plonge dans ce monde-là. Il va y avoir des liens et tout. Donc, c'est une lecture, moi, que j'ai trouvée surprenante.
Oui.
J'ai appris aussi beaucoup sur un autre univers. J'ai appris sur les trans avec Gabriel Bouliane Tremblay. J'ai appris sur le monde des poppies avec Philippe Aubert Côté. C'est aussi un roman... Ben, ça devient un page-turner, évidemment, là, oui. Comme à lire. On est pris dans l'histoire. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est funky, c'est différent, c'est fantastique. Et c'est bien de voir que ça non plus, c'est pas un livre qui existe juste pour son propos LGBT. Il y a une histoire, tout s'imbrique très bien. C'est une belle petite surprise pour ceux qui aiment les lectures fantastiques et différentes, publiées chez Alire, la maison d'édition de Patrick Sénécal, entre autres, si vous voulez vous le replacer un peu, le oui. genre de...
Puis qui a participé à cette émission, d'ailleurs, déjà, avec... c'était tellement plaisant de le recevoir parce que lui considère que nos communautés sont intéressantes. Il en met partout dans ses livres quand il a la chance de le faire.
Yes!
Alors, c'est ça qui est le fun. Oui, hein?
Yes!
C'est le fun des alliés comme ça.
Reste avec
Brian. Moi, je vais aller rapidement parce que je voulais qu'on parle de ton autre titre que je n'ai pas lu encore, mais qui est un livre pour enfants.
Oui.
Là, je trouve ça intéressant. Pourquoi l'univers des enfants? Ou jeunesse, je devrais dire.
Ouais. L'impulsion de départ, c'était surtout pour Élodie Dermange, l'illustratrice, et moi-même de nous faire du bien à notre enfant intérieur.
Ah, voilà! Ah, j'ai toujours su qu'il y avait une enfant quelque part.
Ah oui, oui, l'enfant n'est jamais loin derrière. On s'est rencontrés en 2020 pendant la pandémie, puis Élodie est suisse, puis dessinait beaucoup les personnes qu'elle voyait à Montréal, flamboyantes, s'exprimer, parler visuellement dans leur existence, puis en Suisse, c'est quelque chose qui existe moins, c'est plus normé, il y a moins d'espace d'expression, puis elle a commencé à faire des portraits, puis tout de suite en les voyant, je me suis dit « Oh my God! » Faudrait que bébé Nour et que bébé Élodie voient ça et accès à ça. Puis on a décidé d'écrire un...
Parce que moi, à chaque fois que je te vois, je vois toujours aussi un enfant quelque part là-dedans.
Ah oui, oui, oui. Puis on s'est dit qu'on allait faire un enfant autour de portraits.
Vous avez fait
faire un enfant, wow!
Ben, quel
beau lapsus! On s'est dit qu'on allait faire un enfant.
Faire un livre autour de portraits de belles personnes à présenter... aux jeunes. Puis c'est des histoires qui se passent pas nécessairement au sujet d'enjeux queer. On voulait montrer que les personnes queer peuvent vivre des choses autres que des coming out.
Oui.
Donc, on explore des cavernes, on se lit des histoires, on fait toutes sortes de choses autres.
Alors là, on s'en va vers toi, mais tout de suite, avant, on va écouter ça.
Oh! C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus!
C'est nos coups de cœur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Je me peux plus.
Alors, ton coup de cœur?
Eh bien, j'en ai plusieurs, mais je vais me concentrer sur mon plus gros coup de cœur de l'année. Moi, c'est la série Empathie de Florence Lompré.
Oui.
Je ne vais jamais en revenir, je pense. C'est tellement... Ça me rend...
C'est mon grand rêve. S'il y a quelqu'un qui nous entend, j'aimerais que Florence Lompré vienne à l'émission. Oui,
okay. Je trouve que cette série-là, c'est un coup sûr. Je suis fière que ça existe au Québec. Je suis vraiment fière de cette série-là qui est queer, puis qui est queer d'une façon que je trouve tellement décomplexée, tellement justement que l'arc des personnages ne fait pas... que leur queerness n'est pas l'arc de leur personnage. Non. C'est vraiment juste, ça fait partie de leur vie. C'est un personnage qui est bisexuel. C'est super bien mis à l'avant. Des belles romances queer. Il y a des actrices trans. Il y a des personnages comme ça qui vivent des enjeux. Puis je veux dire, la série entière parle de l'importance d'avoir... Tenez-vous bien, de l'empathie, l'ouverture d'esprit, de la compassion pour les douleurs des personnes marginalisées. C'est incroyablement bien fait, je trouve. Il y a une belle sororité là-dedans. Il y a, selon moi, c'est un coup sûr. Il y a de l'humour. C'est une douceur à écouter, même si c'est dur. Tu sais, ça traite de sujets qui sont réels et concrets d'une façon avec une main de maître. Vraiment, j'ai rien à dire contre la série. Je suis complètement vendue à 100%.
Qui d'autre l'a regardé?
Ah, je l'ai regardé aussi.
Oui, ah,
oui, et toi?
Bon.
Comment...
J'ai adoré. Puis, je pense que c'est important des fois de nommer aussi les pistes d'amélioration parce que le personnage trans dans sa dernière série était un des pires de l'histoire du Québec.
Oui.
Ah oui?
Ben, oui,
oui. C'était m'entends-tu, hein, c'est ça? Oui.
Mais le reste, en tout cas, mais La courbe d'amélioration avec le personnage joué par Lyraël Dauphin est absolument hallucinante parce que, au contraire justement du personnage trans dans sa dernière série, le personnage joué par Lyraël est plein de nuances, a une profondeur, a une personnalité, et pas un stéréotype ambulant.
Exact.
Et exactement ce qu'on veut voir à la télé comme représentation trans et joué par une personne trans.
Et c'est tellement important. Tu sais, c'est la... À la limite, Florence, l'autrice, de ce que je sache, n'est pas queer.
Pas du tout, elle est en couple avec Pascal Cameron.
Elle aurait pu être bi ou pas. De ce que je sais, elle ne l'est pas. Puis je trouve que ça paraît qu'il y a eu de la recherche derrière. Mm. Ça paraît qu'il y a eu dans la plume, en tout cas, en tant que femme bi puis queer, je me suis reconnue dans sa plume. Je me suis reconnue dans son interprétation même. Puis oui, je trouvais ça tellement... Je suis d'accord avec toi. Le personnage qui est trans, c'est comme je l'ai expliqué, ça fait partie de sa vie. Puis il y a quelque chose de tellement... Personne autre. Elle vit pas nécessairement de violence systémique à l'écran. On le sous-entend, mais c'est pas violent à écouter. Enfin, un personnage trans qui vit pas de violence, ça fait du bien.
Puis, je vais pas divulgâcher, mais toute l'histoire du bébé. Pas du bébé, mais fait de sa conjointe qui était enceinte. Ah, mon Dieu. Moi, je vais vous dire, j'ai pleuré après chaque épisode. Je les écoutais en rafale et ça me coûtait cher de Kleenex.
C'est qu'on pleure, mais qu'on pleure avec le cœur plein d'amour. C'est particulier.
Je sais pas si... Je voyais, Brian, tu l'as vu toi aussi, c'est ça?
Sûr, voyons donc.
Et comment... voyons donc.
Tu veux ajouter quelque chose?
Mais non, mais c'est qu'on hâte à la deuxième, la saison.
La barre est haute.
Oui, ben c'est ça.
Pendant ce temps-là.
Oui. Puis il y a aussi le Canal C en France qui va s'impliquer cette fois-ci.
OK.
Mais moi, j'ai un autre coup de cœur, si vous me permettez. Ça s'appelle Rivalité passionnée ou Heated Rivalry. C'est pas... on n'est pas du tout dans le même jeu. On est dans le hockey cette fois-ci. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que... Enfin, on parle d'homosexualité dans le hockey. Là, on est vraiment basic, là, ces deux gars. Et vraiment, on est allé là et j'ai trouvé que c'était bien joué, bien fait. Et ce que j'ai adoré, c'est quand François Arnault, oh là, je vais le divulgâcher, fait descendre son chum lorsqu'il gagne la Coupe Stanley pour l'embrasser devant tout le monde sur la patinoire. J'ai dit, right on. Et tous les homophobes là, qui nous jettent plein de cochonneries ces jours-ci, j'espère qu'ils ont bien vu ça.
Et puis si je peux rajouter à Heated Rivalry, ce que je trouve le plus pertinent, c'est à quel point il y a des belles scènes de sexualité niveau cinématographique consentement. Il y a plein de consentement là-dedans. C'est beau à voir, c'est beau à regarder.
Ouais. J'aimerais ça qu'Éric Duhem regarde ça, parce que il a déjà écrit que le consentement en tombe, ça n'existe pas.
Oh, mon Dieu.
C'était tellement beau, tu sais. Est-ce que je peux? Est-ce que ça va?
Est-ce que tu es à l'aise? Le fun à voir. Puis aussi, la couleur chaude, les angles, les corps, comment c'est fait. C'est beau. C'est vraiment beau.
Est-ce que je comprends, il y a toute une culture qui s'est construite autour. Il y a des soirées de visionnement.
Ah, oui.
Puis il y a les produits dérivés. Là.
Oui, les parties de danse, Heated Rivalry.
On va s'entendre, je n'embarquerai pas là-dedans, mais en tout cas, est-ce que toi, tu avais un coup de cœur à nous dire?
Ah, mon Dieu! J'ai tellement eu de coups de cœur cette année. J'irai avec le podcast Amphibie.
Oui.
De cette côté, qui est fascinant parce que c'est un podcast qui parle d'écologie queer. La prémisse du show, c'est que la queerness fait pas juste exister dans la nature, mais en fait, la nature est incroyablement queer de A à Z. Puis c'est l'hétéronormativité qui est plutôt l'exception. Avec plein d'exemples des biologistes, des gens... qui ont toutes sortes de formations, toutes sortes de compétences, de savoirs qui viennent nous le partager. Ça m'a juste rendu heureuse d'écouter ce podcast-là.
Excellent.
Ah, ça donne envie, je ne le connaissais pas, je vais aller écouter.
Puis rapidement, Brian, tu as un petit coup de cœur que tu veux ajouter, toi?
Ah, bien rapidement, juste pour dire, encore dans les livres, parce qu'on vient de terminer le temps de Noël, si vous n'avez pas fini tous vos desserts, moi, le coup de cœur qu'on a eu dans les dernières semaines à la maison, c'est le livre Nostalgie. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer.
Non,
non.
Antoine Goulet et Philippe Diquet, c'est un livre de dessert.
miam, miam.
Allez voir ce livre-là, Nostalgie. C'est des vieilles recettes pimpées un peu. On trouve entre autres genre des biscuits à la Paperman Rose. Là. Tout est bon là-dedans. Ça donne il y a tout ce qu'il faut pour tomber dans un beau coma diabétique. Je suis sûr. En dessous de beaucoup, beaucoup de sapins à Noël. Mais un très beau livre de recettes fait par un couple gay, donc qui mettent de l'avant leur talent, et voilà. Donc,
ils vont puis pour nous faire prendre du poids.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus!
C'est vrai que c'est drôle, hein? Bon, nos coups de gueule. Ben, je vais commencer, puis on va pas en dire trop. Brigitte Bardot.
Ça dit.
Franchement, j'ai des amis qui m'ont donné plein de caca parce que j'avais publié les choses horribles qu'elle avait dit sur les personnes queer, les personnes gays. Et j'aimerais rappeler aux gens que la beauté, ce n'est pas de la grandeur. Mm.
Oh,
la beauté, ce n'est pas de la bonté. Mm. Cela dit, je vous laisse aller avec vos coups de gueule.
Le mien, c'est en fait un, mais ça regroupe tout ce qui pourrait s'y retrouver. C'est des numéros d'humour, parce que c'est mon milieu, que je ne sais pas pourquoi les hommes cis font une valeur principale de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mm. Et c'est bourré de billets. Je parle entre autres du numéro pansexuel de Mathieu Cyr. J'ai espérer qu'au moins, au minimum, les informations factuelles sur la communauté étaient véridiques. Non, malheureusement, des mauvaises définitions du mot queer, des mauvaises définitions en général de certaines identités, bourrées de biais, bourrées de... en fait, l'angle de fond, c'est un... c'est bien compliqué vos affaires, c'est vous qui êtes intolérant. J'ai tout haï. Il y a de l'humour, je veux dire, certaines phrases peuvent être super drôles, certaines images peuvent être drôles, mais tu vois, de façon générale, je trouve que c'est du premier degré facile, un peu à la allosexuel. Des gens qui aiment ça sont excités par les salutations. Je suis comme, ouf, ça, c'est la première idée. Là, on s'est arrêté là. Et ça regroupe, bref, tous les numéros d'humour que j'ai vus d'hommes hétérosexuels cis qui parlent de transidentité, mais qui n'y connaissent rien. Et c'est bourré de billets.
Il me reste une minute. Rapidement, un coup de gueule.
Mon coup de gueule principal, ce serait le both-sidism, le fait de donner la parole à ce qu'on considère être deux côtés d'une même médaille. Ah, je m'excuse, oui. Mais le fascisme et la gauche, c'est pas la même chose.
Non.
Et le summum, pour moi, de ce both-sidism, c'est tout ce qui s'est passé autour de Fierté Montréal cet été. Oui. Et mon coup de gueule se finit en coup d'amour pour Wild Pride.
Oui!
Rapidement, Brian.
Oh mon Dieu, moi j'en avais pas de coup de gueule, j'étais encore dans la bonté, mais 2026 commence difficilement, fait que je suis sûr qu'on va en avoir quelques-uns au cours de l'année, des coups de gueule.
On va avoir une petite pensée pour nos amis queer au Venezuela.
Oui, et oui. 100%.
Hey, merci la gang, c'était le fun. Merci Joël Prédhomme, merci Brian Saint-Louis, et merci Nour Simon.
Un grand plaisir. Autres.